Vous écoutez
RMC.
7h59 et toujours de la pluie, Géraldine.
Ouais, on en parlait effectivement, la pluie qui va encore toucher la Bretagne, alors qu'on a toujours ces vigilances oranges pour les crues, crues de l'Oust, crues de la Vilaine également. Alors c'est relativement calme quand même ce matin. Dans l'Est, on a des pluies qui sont en train de quitter le pays, avec quelques flocons à très basse altitude. Mais on va avoir ces nouvelles pluies, oui, qui vont arriver à nouveau cet après-midi par la Bretagne, par l'Atlantique, accompagnées d'un bon coup de vent, notamment ce soir, avec des rafales qui pourront dépasser les 100 km/h. Puis côté pluie, on attend encore 20-25 mm de pluie supplémentaires, donc sur la Bretagne. Sur le quart sud-est, on va avoir pas mal de soleil. Attention quand même au risque d'avalanche qui reste très élevé, 4 sur 5 pour les Alpes du Sud et la Corse. Il fait un peu plus froid ce matin. Cet après-midi, les températures vont remonter dans le sud-ouest. On va aller jusqu'à 17 degrés à Biarritz, il fera 12 à Marseille, à Bordeaux, 11 à Brest, 8 à Paris ou à Lyon, 6 à Lille et Strasbourg.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vous allez entendre dans un instant le témoignage d'une mère. Sa fille, jusque-là sans histoire, fait partie des quatre mineurs soupçonnés d'avoir séquestré et torturé une jeune adolescente de 15 ans près de Lyon. L'Erika refait surface 26 ans après son naufrage au large du Finistère, une marée noire historique que l'on pensait oubliée. Mais les traces de mazout provenant du pétrolier ont récemment été retrouvées sur des oiseaux. Et battu 3-0 hier soir à Bruges, Marseille quitte la Ligue des Champions la tête basse. Paris et Monaco pourrait se retrouver en barrage.
Détention provisoire requise à l'encontre de 4 jeunes mineurs.
Insoupçonnés d'avoir fait vivre un calvaire à une jeune adolescente de 15 ans, séquestrée, torturée le week-end dernier dans un sous-sol, retrouvée errante, ensanglantée lundi matin dans les rues d'Oulin, près de Lyon. Parmi ses agresseurs, son ex-petite amie et 3 jeunes filles mineures âgées de 14 et 17 ans. Leur profil surprend, tous inconnus des services de police. Ce matin, la mère de l'une des tortionnaires présumées âgée de 14 ans témoigne au micro RMC de Vincent Chevalier.
La fille de Marie et la jeune victime se sont connues l'année dernière dans un foyer d'urgence, d'abord amis. Leur relation s'est ensuite tendue pour une histoire de cœur avec l'un des mineurs impliqués dans l'affaire.
Au début, c'était le petit copain de la victime et il est tombé amoureux de ma fille et du coup, ils ont commencé à se fréquenter et ça a fait un peu de jalousie.
Selon Marie, des vidéos où la victime est torturée ont été retrouvées sur le téléphone de sa fille. Elle a pu lui parler quelques instants pendant sa garde à vue.
Elle a avoué, elle a rien caché, elle a tout dit, elle a présenté ses excuses, elle a dit qu'elle était dépassée en fait et que à ce moment-là, elle était en colère. Elle n'a pas su gérer ses émotions.
Des émotions exacerbées dans un contexte familial difficile et une santé mentale fragile.
Je pense que c'est un tout. On sort d'une situation qui est un peu compliquée et je pense que psychologiquement, ça ne va pas. Du coup, elle a pété les plombs.
Difficile de trouver les mots pour cette maman démunie, incapable d'expliquer ce déchaînement de violence.
J'ai beaucoup de mal à me dire que ma fille, elle va m'être enlevée, quoi. Alors que j'ai tout fait pour la sortir du foyer, tout ça. Et là, on va me la reprendre.
Avec sa fille, 3 autres mineurs ont été interpellés, ainsi qu'un majeur suspecté d'avoir conduit la victime sur le lieu de la séquestration.
C'est un souvenir douloureux qui ressurgit 26 ans après le naufrage de l'Erika au large des côtes bretonnes à bord du pétrolier. 30 000 tonnes de mazout déversées sur 400 km le long des plages. Il a fallu des années pour en venir à bout. Sauf que ce n'est pas terminé. Conséquence de récentes tempêtes, Romain Houg, une vingtaine d'oiseaux ont été retrouvés mazoutés.
Oui, c'est la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui les a récupérés le long des plages bretonnes. Leurs plumes ont été envoyées au Cèdre de Brest. C'est un centre spécialisé dans la pollution sous-marine qui les a analysé et qui confirme qu'il s'agit bien du fioul de l'Erika. Alors, si ça ne fait presque aucun doute, c'est parce que ce centre, comme à chaque fois qu'une marée noire touche nos côtes, a prélevé à l'époque des échantillons du mazout transporté par l'Erika. Chaque cargaison comporte une espèce d'ADN et c'est bien cette signature particulière qui a été retrouvée sur les oiseaux échoués plus de 26 ans après le naufrage du pétrolier. Comment est-ce possible? Eh bien, écoutez, Cédric Marteau, il est le directeur général de la LPO.
Les bateaux qui sont au fond de l'eau, plus de 120 mètres pour l'Erika, sont des bateaux qui bougent avec les tempêtes. Il y a des courants marins de fond et de temps en temps, il y a des brèches qui s'ouvrent. L'Erika, il reste du fioul dans les tubes. Il n'a jamais pu être pompé entièrement. Et là, c'est la première fois qu'on retrouve des oiseaux qui auraient été contaminés par du fioul venant de l'Erika.
L'urgence désormais, assure-t-il, c'est d'envoyer des sous-marins inspecter là où les brèches, puis soit de les souder, soit d'essayer de pomper l'hydrocarbure restant afin d'éviter une nouvelle catastrophe.
Et les précisions de Romain Houg. Le narcotrafic, objet d'une nouvelle réunion à l'Elysée ce jeudi, la troisième depuis la mort de Mehdi Kessassi à Marseille en novembre dernier. Emmanuel Macron souhaite faire un point d'étape en présence de plusieurs ministres et responsables de la lutte contre le crime organisé. Il est 8h04, vous écoutez RMC, la nouvelle salve de Bernard Arnault contre l'État après le passage en force du Premier ministre sur le budget continue de faire parler. Le patron de LVMH accuse la France d'être contre les entreprises, cherchant à les taxer. Il fait ici référence à la taxation des bénéfices sur les grandes entreprises, un avis que ne partage pas Pascal Cany. Le président de Business France est venu ce matin sur RMC présenter le bilan de l'investissement étranger en France l'an dernier, en hausse de 2% par rapport à 2024.
Moi qui reviens d'Avos, je peux vous dire par exemple que les Américains, les dirigeants américains, qui généralement sont extrêmement arrogants, nous regardent de haut, et bien là, à la faveur de cette arrogance incroyable de l'administration Trump, ont une forme d'humilité et reconnaissent qu'on va devoir continuer à faire des affaires, quels que soient les tarifs, quelles que soient les rétorsions, quelles que soient les coercitions qui sont en place. Donc je crois qu'on a là un atout rare, unique, qu'il faut continuer à jouer, et ça fait plus de 8 ans que nous sommes le pays le plus attractif. Ce n'est pas arrivé en 3 ou 4 décennies.
Un nouvel épisode ce matin dans la guerre entre VTC et taxi. Ça se passe à Agen, dans le Lot-et-Garonne. La ville a décidé d'interdire les chauffeurs privés de 7h à 22h sur l'ensemble du territoire de la commune et ce, tous les jours de l'année. Ce sera 135 € pour les contrevenants. Une action en justice est en cours pour casser l'arrêté du maire d'Agen qui a en fait répondu, Cassandre Brault, à la demande des taxis. Les VTC sont très remontés.
3 ans que Freddy Rossi est chauffeur VTC à Agen, alors cet arrêté, c'est un gros manque à gagner.
Je vais perdre en moyenne entre 200 et 300 euros par jour.
Car dans la zone interdite à la circulation entre 7h et 22h, la gare d'Agen, le parc des expos et les principaux hôtels, entre autres.
Ça représente 95% de notre chiffre d'affaires en gros.
Cette décision de la mairie fait suite à une demande des taxis qui s'estiment victimes d'une concurrence déloyale, ce qui a entraîné des tensions entre chauffeurs.
On m'a menacé de me détruire la voiture, on m'a menacé de s'en prendre à moi physiquement, de m'empêcher de travailler.
Des faits démentis par les taxis locaux comme Alex Ovelero, taxi à la gare d'Agen depuis une dizaine d'années.
Il y a eu des échanges un peu houleux, il y a eu des tensions. Nous, l'impression qu'on a, c'est qu'on vient nous prendre directement dans la gamelle en fait. Nous, on vit vraiment de la gare et de ces petites courses-là. On n'a pas les mêmes tarifs. Moi, si je me mets à moitié prix tarif VTC, demain je meurs. J'ai une licence à 120 000 euros à rembourser. Clairement, ça nous tue. La cohabitation, elle est très difficile.
L'Union Automobile, un syndicat de chauffeurs VTC, a déposé un recours hier auprès du tribunal administratif de Bordeaux pour faire annuler cet arrêté municipal.
La France va soutenir le placement des gardiens de la Révolution en Iran sur la liste des organisations terroristes. Ce sera sur la table d'une réunion des ministres des Affaires étrangères européens ce soir à Bruxelles. L'Iran, où la situation se tend, Téhéran menace de répondre aux attaques de Donald Trump qui réclamait hier la conclusion d'un accord sur le nucléaire. Le temps est compté, dit le président américain qui a positionné des bateaux de guerre au large de l'Iran. Paris et Monaco pourraient bien se retrouver en barrage de Ligue des Champions après son match nul face à Newcastle 1-1. Le PSG est éjecté du top 8. Les Parisiens se retrouvent barragistes. Ce sera face à Carabag ou Monaco qui a tenu tête à la Juve 0-0. Grosse déception en revanche pour l'Olympique de Marseille. Battu à Bruges 3-0, les Marseillais qualifiés au coup de sifflet final sont finalement éliminés de la compétition. Conséquence d'un but du Benfica Lisbonne à plusieurs milliers de kilomètres de la colère froide hier soir du directeur du foot marseillais, Mehdi Benatia.
Soirée de merde, soirée, j'ai envie de te dire, même honteuse. On est sur un problème, j'ai envie de dire, récurrent. On a joué un très bon match il y a 3-4 jours contre Lens. Et aujourd'hui, tu fais un match comme ça contre une équipe de 22 ans de moyenne d'âge. T'es là, tu gagnes pas un duel. Quand t'es en train de jouer une finale comme ça, importante pour l'histoire du club, pour la continuité, et que tu fais rien du tout, et que t'as des joueurs qui sont même pas rendus compte de l'événement, qui sont en train de marcher, moi, ça, c'est des choses que je peux pas accepter.
Et la course à l'Europe continue ce soir sur RMC pour Lyon en Europa League. Lille aussi toujours en course. Nice est déjà éliminé. Et puis Alban Elesi, Canaferina, 8e et dernier skieur français sélectionné pour les Jeux de Milan en Cortina. Les médaillés olympiques Alexis Pinturo et Victor Mufajandé restent sur le carreau. Les Jeux d'hiver à vivre dès le 6 février sur RMC, radio officielle de la compétition.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 8h08. C'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, le budget 2026 n'est même pas encore adopté, que le gouvernement multiplie déjà les coups de canif dans les mesures d'économie qui étaient pourtant promises.
Effectivement, rien...
C'est déjà fini.
Et oui, rien que pour la journée d'hier, et il faut rappeler que ce budget n'est pas encore tout à fait voté, rien que pour la journée d'hier, le gouvernement a reculé sur deux mesures d'économie. La prime de Noël, d'abord, le gouvernement voulait la réserver cette année aux seules personnes ayant des enfants. Elle sera finalement conservée pour tous les bénéficiaires, dont les allocataires du RSA et les chômeurs en fin de droit. Le gouvernement fait ainsi une croix sur 260 millions d'euros d'économie. Et puis, selon les informations de nos camarades de BFM Business, les suppressions de postes dans l'éducation nationale seraient légèrement revues à la baisse. On serait plus autour de 4 000, mais autour de 3 200, 3 300 à peu près.
Il y a d'autres efforts budgétaires auxquels le gouvernement s'apprête à renoncer ?
Oui, et là, ça se focalise particulièrement sur les comptes de la sécurité sociale. Le déficit devait être maintenu sous la barre des 20 milliards. Eh bien, c'est extrêmement peu probable. Il y a d'abord le nouveau congé supplémentaire de naissance qui était censé n'entrer en vigueur qu'en 2027, mais qui va entrer en vigueur au 1er janvier. Ça, c'est les parlementaires qui l'ont exigé. 200 à 300 millions d'euros. Il y a, rappelez-vous, cette baisse de l'abonnement à l'électricité qui coûtera quand même 540 millions à l'État et qui est aussi un moins pour les comptes sociaux, puisque ça affecte les caisses de retraite des électriciens. Au final, on a le Haut Conseil du financement de la protection sociale qui nous dit que rien que sur ce budget de la Sécu, il y a au moins 700 à 800 millions d'euros de manque à gagner qui ne sont pas inscrits dans le budget d'aujourd'hui.
Et l'histoire des 4 milliards d'euros d'économies sur l'assurance chômage ?
Ah bah oui, bah ça c'était effectivement, ça aussi, rappelez-vous, c'était François Bayrou qui avait exigé 4 milliards d'économies aux partenaires sociaux. Hier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a dit, bon écoutez, on oublie un peu cette lettre de cadrage.
On n'est plus à 4 milliards
donc
près.
Donc ce sera plutôt entre 400 millions et 1 milliard. Plutôt que 4 milliards. Alors c'est les comptes de l'assurance chômage, mais rappelez-vous que l'État adore puiser dans les comptes de l'assurance chômage, donc c'est quelque part aussi un manque à gagner.
Donc on ne fait plus d'efforts.
Et Moody's nous dit, vous ne tiendrez pas vos objectifs de déficit public pour 2026, et on est encore plus inquiet pour la préparation du budget 2027.
Merci Emmanuel Le Chypre.
Les ennuis ne font que commencer.
Inquiet donc pour notre déficit ce matin. Il est 8h11 dans un instant. Arnaud Demanche nous rejoint. Notez qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera l'essayiste et philosophe Bernard-Henri Lévy. On reviendra évidemment sur l'Iran. Faut-il intervenir ? Les États-Unis, voire l'Europe ? Est-ce que nous sommes nous-mêmes lâches ? Est-ce qu'on est en train de laisser tomber le peuple iranien ? Et puis juste après ça, il y aura aussi Nicolas Cantelou et ses imitations. Face à Cantelou, c'est tous les jours à 8h50 sur RMC. Il est 8h11, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h14, Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Il est de retour.
Ah oui. Bon, ouais.
Ça va pas mieux non plus, vous, votre
non,
truc.
Non, non, moi j'aimerais hiberner. Ça, je comprends pas pourquoi on n'hiberne pas.
Mais on devrait faire. Mais oui, on se réveille en mars. Jours. On devrait demander 6 mois de congé en hiver. Mais ça s'entend, vous avez un peu le nez pris encore.
Oui.
Le nez pris, comme le film avec Brigitte Bardot.
Très bon.
Et mes jambes. Du lézeb, mes jambes. C'est rigolo parce que normalement c'est le mépris, voilà. Je le dis pour ceux qui connaissent pas le film. Pardon, c'est la fièvre. Tiens, en parlant de fièvre, la température monte sur CNews en ce moment à cause de l'affaire Morandini. Oh ouais. Vous savez, cet OQTF qui squatte la tranche 10h30 midi sans pouvoir être expulsé après sa condamnation définitive pour corruption de mineurs. On rappelle qu'il se faisait passer pour une femme pour solliciter des nudes d'adolescents. Alors déjà, Jean-Marc Morandini qui demande des photos à poil. T'es pas rassuré, mais Morandini avec une perruque, une robe et du rouge à lèvres qui fait la même chose, t'es pas bien. Et Jordan Bardella ne veut plus que les élus du RN se rendent sur son plateau. À quoi elle va servir l'émission du coup ? Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Parce que... Non mais c'est comme si les militaires retraités boycottaient le plateau de LCI, il reste rien quoi. De toute façon, tout le monde pète les plombs sur CNews en ce moment. Vous avez vu, cette semaine, il y a le chroniqueur géopolitique Vincent Hervouette qui a carrément accusé les hommes autour du plateau de porter une barbe à cause de l'influence sournoise des mollahs iraniens.
C'est vraiment le triomphe des mollahs. Ils ont réussi non seulement à faire porter la barbe à toute une génération. Nous sommes 5 sur ce plateau. 5 hommes, vous êtes 4 êtes barbus.
Voilà. Putain. Eh ben, ça, c'est de l'antrisme, hein. Franchement, vous savez, je suis pas fan des frères musulmans, mais arriver à coller 4 barbus radicalisés discrétos sur un plateau de CNews, alors là, j'applaudis parce que la perf était pas facile. Fallait quand même le faire. C'est un peu comme organiser un spectacle de Dieudonné en loose day dans une synagogue Lubavitch. S'il y arrive, tu te dis, c'est abusé, mais en attendant, il y a un tour de force,
vous êtes vous-même un petit peu barbu,
Un petit peu barbu et radical. radicalisés à fond. Pardon. Alors évidemment, un des musulmans radicalisés présents proteste, hein, parce qu'Ahal Pro essaye maladroitement de contester qu'il a été découvert.
C'est quoi l'ayatollah Khomeini qui fait que nous avons une barbe de deux jours?
Ben voyons, la taquilla, on
c'est
connaît.
Exactement ce que dirait.
C'est exactement ce que dirait un radicalisé. La dissimulation. Pascal Praud, on a son emploi du temps pour le 11 septembre 2001? Non, on ne l'a pas. Faudra un jour se pencher sur cette organisation radicalisée par Jordan Barballa.
Anne Hidalgo et ses adjoints sont critiqués après avoir posté un selfie tout sourire dans un avion avant une visite commémorative à Auschwitz.
Oui, ça donnait vraiment cette impression. Il s'ambiançait pour aller à Auschwitz. La photo est drôle, hein. On la voit dans les écrans. Vous l'avez regardé là chez vous. Tous dans l'avion. Tadam! Départ pour Auschwitz. Après, je comprends. T'es un peu obligé de chercher à mettre une ambiance parce que bonjour le week-end de team building entre collègues. Vous imaginez votre chef qui débarque en salle de réunion. Bon, j'ai décidé de vous réunir parce que je pense que pour le bien de cette équipe, faut tous vous envoyer à Auschwitz. C'est pas fun. Pas un sourire à ce point. Si votre conjoint vous offre un week-end de Saint-Valentin en pique-nique à Oradour-sur-Glane, vous souriez pas quand même. Vous êtes discret. Alors il va y avoir d'autres voyages commémoratifs à la mairie de Paris. Ça brainstorm en réunion. En ce moment, ils sont là. Hey, les copains! Si la semaine prochaine, on allait à Hiroshima et Nagasaki rendre un petit hommage. Ah ouais, génial! J'adore les sushis! Et on pourrait. On pourrait aller au musée de l'esclavage sur l'île de Gorée au Sénégal. Oh bah, comme ça, on viendra tout bronzer en hiver. C'est plus sympa. Écoutez, c'est toujours bien de joindre l'utile à l'agréable.
Psychologie Magazine, Arnaud nous dévoile une nouvelle tendance. Les jeunes adultes organisent des soirées administratifs afin de faire ensemble leurs papiers.
Ouais. Ouais. Mais oui, on dit que les jeunes savent plus s'amuser, mais c'est une bonne idée quand même.
Je veux faire ça avec Géraldine.
Allez, viens faire tes impôts à la maison. Ceci dit, je m'étonne moins que la natalité baisse.
Oui, hein. Non, mais... j'allais le dire.
Avant pour pécho, on faisait des soirées karaoké, strip poker, il y avait une bonne bouteille. 9 mois plus tard, t'avais réarmé démographiquement. Bon. Là, 3 heures de compta et de calcul de frais kilométriques, est-ce que t'as vraiment envie de conclure? Alors Manu Le Chip me disait
Oui, évidemment.
Je connaissais les soirées Netflix and chill ou les soirées sex and sushi, mais les soirées rapport comptable et rapport sexuel, je ne les avais pas vu venir. Va créer une ambiance romantique en remplissant des cases de formulaire. Je suis même pas sûr que ça mette une si bonne ambiance que ça.
Aidez donc, vous avez fait des ratures partout, vous avez tous salopé ma feuille. Ça galère.
Non mais qu'est-ce qu'elle veut dire, mongolienne, là?
Vous voyez, ça dégénère très vite. Ils vont pas conclure, les deux.
Oh là là, mon Dieu, ça dégénère.
Allez, soignez-vous bien.
Ça dégénère énormément. Merci, Arnaud. Qu'on retrouve aussi en podcast à tout moment, bien sûr. Et en tournée partout en France avec un nouveau spectacle. Vous serez à Toulon, à Nice, à Aix-en-Provence, à Épinal, à Reims, à Mâcon. C'est un spectacle.
Avec plein de miasmes à transmettre à tout le monde. En tournée.
Il sera plus
en
malade. Tournée. Il est 8h19. Vous nous appelez au 3216. Nicolas, qui nous a appelé de la Nièvre. Bonjour, Nicolas. Vous êtes chauffeur routier. Et vous vouliez réagir au propos de Bernard Arnault. Vous l'avez entendu, Bernard Arnault, qui estime que la France est anti-entreprise et que ça crée même du chômage avec toutes ces taxes. Nicolas, comment vous réagissez-vous?
Alors moi, je pense que je suis d'accord avec son constat. C'est un constat. Hein. C'est plus un constat qu'un coup de gueule.
D'accord.
Je pense qu'il parle pas que pour lui. Il parle pour les entreprises en général. On regarde aujourd'hui, franchement, les entreprises qui réussissent le mieux, c'est celles qui ont des marchés à l'étranger. C'est Air Liquide, Total, LVMH. Enfin, on peut en citer plein. C'est celles qui produisent pas le plus en France.
Qui n'ont pas tout leur chiffre d'affaires en France, vous voulez dire?
Ouais.
Et vous pensez que c'est dû à nos normes, nos impôts, nos taxes?
C'est dû à la politique, mais pas uniquement de Macron. Hein, depuis Sarko, ça a toujours été comme ça. On crée des hautes autorités, des hauts conseils, ça crée des fonctionnaires en plus, des hauts fonctionnaires, parce que quand on dit fonctionnaire, c'est pas... Je ne veux pas mettre les policiers ou les infirmières.
Vous parlez de ceux qui sont à Bercy. Vous parlez de ceux qui sont à Bercy et qui décident des taxes et des normes, quoi.
Ouais. Et ces gens-là, faut les payer. Donc, on les paye comment? Parce que eux, en face de leur salaire, il y a aucune valeur ajoutée. Il y a aucune plus-value.
Ouais. Pour vous, il faudrait carrément faire le ménage au sein de l'État, quoi.
Ah oui.
Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, vous étiez donc sur les routes, chauffeur routier, il réagissait donc depuis la Nièvre au propos de Bernard Arnault qui dit donc de la France qu'elle est en train de devenir un pays anti-entreprise. Il est 8h27 sur RMC, 21 bien sûr sur RMC et RMC Story. Dans un instant, je file du côté de BFM TV. Mon invité c'est Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy très engagé sur la question iranienne. Il a d'ailleurs été ciblé par les autorités iraniennes. C'est le Washington Post qui révélait qu'il y avait eu une tentative d'assassinat contre Bernard-Henri Lévy par les gardiens de la révolution iranienne. Faut-il intervenir en Iran ? Sommes-nous en train de laisser tomber le peuple iranien ? Bernard-Henri Lévy dans un instant sur RMC et BFM TV. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes écrivain, philosophe, réalisateur. Votre dernier livre, c'était Nuit Blanche et surtout ce film Ukraine, notre guerre. Mais ce matin, ce que je voudrais, c'est surtout que l'on puisse parler de l'Iran. 30 000 morts au moins. Une situation d'attente. On a évidemment ce porte-avions américain qui est désormais positionné au large de l'Iran. Donald Trump qui menace, qui dit le temps est compté. L'Iran eux-mêmes qui disent qu'ils menacent de répondre, qu'ils ont le doigt sur la gâchette. Sommes-nous en train d'abandonner le peuple iranien ?
Ça change de jour en jour, mais pour l'instant, on l'a abandonné. On a laissé faire les 30 000 morts. On a laissé les femmes, les hommes, les jeunes gens descendre dans les rues et se faire massacrer à la mitrailleuse lourde. On a laissé les snipers depuis les toits viser à la tête. On a laissé se faire les exécutions dans les prisons. Donc, à l'heure qu'il est, à l'heure où nous parlons, on a laissé tomber les femmes et les hommes en révolte en
Iran. On les a déjà laissé tomber, c'est ce que vous dites.
On les a déjà laissé tomber. Les 30 000 qui sont tombés, qui sont morts, ils se relèveront pas. Voilà. Quoi que décide Trump, quoi que décide l'Union européenne, ceux-là, on les a laissés tomber.
Vous dites...
Ce massacre iranien est quelque chose, je ne sais pas si les gens mesurent les chiffres, 30 000 morts en quelques jours, c'est un record quasi absolu. Les seuls exemples dont je me souviens d'un tel rythme de mort, 30 000 en quelques jours, c'est le Rwanda en 1994, record horaire mondial du massacre, et c'est avant, en 48 heures, Babi Yar, 33 000 dans la banlieue de Kiev, massacre de juifs. C'est très rare, 30 000 morts en si peu de jours, sous les yeux indifférents de la communauté internationale, sans manifestation, sans protestation, avec des chancelleries qui disent « on surveille, on monitore, on est vigilant ». Enfin, écoutez, 30 000 morts, voilà.
On est vigilant, disent les uns et les autres. L'Europe ne peut se dérober au rendez-vous historique qui lui est assigné en Iran. Voilà ce que vous écriviez il y a quelques jours, Bernard-Henri Lévy. On parle évidemment des États-Unis, on va y revenir. Faut-il qu'ils interviennent ? Vont-ils intervenir ? Quels sont les enjeux ? Mais au fond... On n'arrête pas de dire en ce moment qu'on doit apprendre à se passer des États-Unis. Est-ce que c'est pas le premier rendez-vous européen aussi ?
Bien sûr, c'est un rendez-vous pour les peuples libres en général. Donc, et c'est un rendez-vous pour qui veut, pour qui peut. Le peuple iranien, ils font pas la différence aujourd'hui. Ils disent pas, attendez, on veut d'abord savoir si c'est un républicain ou un démocrate. Ils veulent qu'on les sauve. Ils veulent que le bain de sang s'arrête. Ils veulent que ces criminels enturbanés, ces faux religieux, ces mafieux, ils veulent qu'ils quittent le pouvoir. C'est ça que demandent les 90 millions d'Iraniens aujourd'hui. Ils s'en fichent que ça soit Donald Trump ou pas Donald Trump. Ils veulent que ça s'arrête.
Avec évidemment cette question, on va y revenir, de l'ambivalence de Donald Trump sur la scène internationale. Lorsque vous citez ces enturbanés, il s'agit des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Hier, la France, pour la première fois, a dit qu'elle était favorable à l'inscription de ces gardiens de la révolution islamique en Iran sur la liste des organisations terroristes. Enfin ?
Enfin. Enfin. Écoutez, c'est pas, ça fait des années que les gardiens de la révolution sont des terroristes. Rien d'autre. Ça fait, ils gardent aucune révolution. Ils exportent le terrorisme et ils pratiquent le terrorisme à domicile. C'est leur métier. C'est la plus grande organisation terroriste du monde. Avec des filiales, des succursales qui s'appellent le Hamas, qui s'appellent le Hezbollah, qui s'appellent les milices, chiites irakiennes, qui s'appellent les Houthis. C'est ça les gardiens de la révolution. Alors enfin, c'est bizarre.
Qu'est-ce qui avait retenu jusqu'à présent la France de les qualifier de terroristes ?
Ben j'en sais rien. Parce qu'écoutez, le président Macron a eu il y a 3 ans et demi un geste, un mot extraordinaire. Lorsque des femmes iraniennes, Massi Alinejad et d'autres, sont venues à Paris, à l'Élysée, le président Macron a dit c'est une révolution. Et ce mot-là était révolutionnaire. Il était, ça devait être en octobre ou novembre 2022. Il a été le premier dirigeant occidental à dire, faites gaffe, soyez bien conscients, ce qui se passe en Iran est une révolution. 3 ans après, on a encore un Quai d'Orsay, des diplomates qui en sont à se contorsionner avant de décider finalement de dire que c'est une organisation terroriste. Il y a quelque chose qui ne va pas là.
Donc il y avait presque une dichotomie à la tête de l'État, quoi.
Mais il y a toujours en
Apollinaire. Et les diplomates sont trop prudents.
Il y a toujours en France, ben oui, il y a toujours un appareil d'État qui s'appelle le Quai d'Orsay, auquel j'ai eu quelques fois affaire dans mon existence d'intellectuel engagé, et qui sont pas les plus audacieux, voilà, et qui n'ont pas toujours la plus grande idée de la France.
Et je précise, lorsque l'on parle de ces gardiens de la révolution islamique en Iran, que vous-même, Bernard-Henri Lévy, vous en avez été la cible. C'est le Washington Post qui avait révélé en 2022 que vous étiez personnellement ciblé par le pouvoir iranien pour des tentatives d'assassinat. Bernard-Henri Lévy, le fait que ces gardiens de la révolution islamique soient désormais sur cette liste des organisations terroristes, au-delà des mots, qu'est-ce que ça change ?
Ça change déjà qu'ils vont se déplacer. Ils vont avoir un peu plus de mal à se déplacer. Ils vont avoir un peu plus de mal à, quand ils condamnent à mort un étranger, ils mettent une rançon, ils mettent un prix sur sa tête, d'accord ? Et en général, ils l'honorent. Ça va rendre difficile le fait de payer les tueurs pour tel ou tel. Il y en a beaucoup des gens condamnés à l'étranger. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été exécutés à distance par des gardiens de la révolution. Donc ça va leur rendre la vie difficile. Et si on va encore plus loin, parce que je crois que c'est ça qui est dans les tuyaux, et si on décide par exemple de geler les avoirs que les indignes dignitaires iraniens honte en Europe et à Paris, ça, je peux vous dire que ça va aussi leur compliquer sérieusement l'existence.
Et ça, il faut le faire.
Il faut le faire depuis des années.
On en a les moyens, on peut le faire.
Mais bien sûr qu'on peut le faire. On le fait avec les Russes. On l'a fait avec les Russes. On est même en train de saisir leurs avoirs, ce qui est juste. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas avec les Iraniens qui ont sur les mains le sang de 30 000 innocents ? C'est même pas une guerre. Moi, la guerre en Ukraine, ça fait 4 ans que je pense qu'à ça. Alors, au moins, c'est une guerre. Il y a en face des hommes armés, vaillants, héroïques. En Iran, il y a des femmes, il y a des jeunes filles de 17 ans.
Totalement,
il y a des enfants
désarmés, évidemment.
Désarmés, voilà.
Et qui ne peuvent effectivement pas répondre. Il faudra que l'Europe, dans son ensemble, décide de placer les gardiens de la révolution islamique sur cette liste. Mais, en effet, la France a rejoint d'autres pays qui y sont favorables. Est-ce qu'il faut qu'en effet, les États-Unis interviennent et comment ?
Oui. Est-ce qu'il faut ? Oui. Mais il faut pour une seule raison. Enfin, pour plein de raisons, mais une raison récente. Le président Trump, il y a 15 jours, a dit aux Iraniens et aux Iraniennes, allez-y les gars, continuez, prenez d'assaut les institutions, descendez plus que jamais dans les rues, l'aide arrive. Aid is on its way, for sure. Bon, alors, on peut pas dire ça, envoyer les gens au massacre, et puis ensuite rester les bras croisés et contempler le spectacle et voir comment ils se débrouillent, les petits gars, c'est pas possible. Les États-Unis, c'est aujourd'hui un devoir moral.
La responsabilité d'avoir dit, on arrive,
est considérable. Mais c'est une responsabilité rarement prise, d'ailleurs, dans les gens. En général, les diplomates sont plus prudents. Dire on arrive, si vraiment on arrive, c'est pour ça que moi je ne crois pas un instant à ce que j'entends que les Américains finalement reculeront. Ils peuvent pas reculer. Quand on dit on arrive, on doit arriver, voilà, d'une manière ou d'une autre.
Donc d'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils interviennent, mais cela dit, des bombardements, est-ce que vraiment ça pourrait libérer la population ?
Mais libérer, l'histoire a plus d'imagination que les humains, donc on ne sait jamais comment une population finit par se libérer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que laisser cette population iranienne livrée à elle-même, attendre, comme je l'entends, j'entends des diplomates, j'entends des commentateurs qui disent ils doivent se libérer eux-mêmes, il faut que le fruit aille au bout de sa maturité, éventuellement même qu'il pourrisse et qu'il tombe. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est indigne. Quoi ? On ne sait pas quelle sera l'issue, mais aider...
En gros, leur dire débrouillez-vous ?
Débrouillez-vous, c'est dégoûtant. Aider, c'est juste quand on est une démocratie, quand on est face à des gens qui défendent les mêmes valeurs que nous.
Et en même temps, il y a eu effectivement la Libye et les résultats que ça a donné. Il y a eu des précédents.
La Libye, il y en a marre. La Syrie. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la Libye et pas de la Syrie ? Il y a la Libye, modèle de l'intervention. Ok, c'est pas terrible. La Syrie, modèle...
C'est pas terrible quand même.
Pas terrible. Bon. Modèle de la non... Oui, mais pas terrible pour des tas de raisons. Parce que justement, on en a sans doute pas fait assez. Mais la Syrie, modèle de la non-intervention. Modèle de la non-intervention. Modèle du on se lave les mains dans votre chair transformée en bouillie. On s'en lave les mains. Résultat, pas 50 000 morts comme en Libye, 500 000, 600 000 morts. Résultat, pas quelques centaines de milliers de réfugiés, des millions de réfugiés. Résultat, des terroristes dans le monde entier.
La Syrie, on le rappelle, effectivement, à l'époque, ça n'était pas Trump, mais Obama qui,
oui,
après avoir fixé, voilà, des lignes rouges, un peu comme on dit, on arrive, finalement, ces lignes rouges franchies avaient refusé d'intervenir.
Voilà.
Daesh n'existait pas à l'époque.
Bien sûr.
On n'en était même pas là.
On n'en était pas là, et c'est... cette attitude que je dénonçais tout à l'heure, son inventeur, c'est en effet Barack Obama, qui avait dit à Bachar al-Assad, attention, si vous utilisez les gaz, c'est la ligne rouge, le gars utilise les gaz, la ligne rouge est franchie, Barack Obama fait le tour du jardin de la Maison Blanche, il rentre, il dit, finalement, je fais rien. Perte de crédibilité pour les États-Unis terrible, déception en Syrie abominable, et quelques battements de cils plus tard, 600 000 morts, pays détruit, et à l'arrivée, Al-Sharaf alias Jolani, c'est-à-dire un djihadiste au pouvoir à Damas,
avec
qui est
question...
en train de massacrer les Alaouites, les Druzes et les Kurdes.
C'est la question que j'allais vous poser, Bernard-Henri Lévy. La situation en Syrie est aujourd'hui préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire, et notamment avec les Kurdes. Certes, un cessez-le-feu, mais fragile, a été signé.
Oui, mais l'important, hélas, c'est pas le cessez-le-feu. L'important, c'est les morts. L'important, c'est les quartiers kurdes dévastés par l'armée syrienne. Et l'important, c'est que l'armée kurde, les femmes kurdes combattantes, ces bataillons de femmes que je connais, que j'ai filmés, qui sont une avancée de civilisation formidable, parce que c'est la vraie égalité entre les femmes et les hommes, intégrées de force à l'armée syrienne de Jolani. C'est ça qui est important. C'est ça qui est moche. Important, c'est les prisons. Il y avait, au Kurdistan syrien, j'ai filmé cela avec mon ami Marc Roussel, on a des kilomètres de rush, les prisons de Daesh, des endroits, à Derik, par exemple, près de Kamishli, où il y avait des milliers d'assassins de Daesh emprisonnés, gardés par les Kurdes. D'accord ? Gardés par les Kurdes. Bien gardés, avec des systèmes de sécurité. Aujourd'hui, dans certaines de ces prisons, les Syriens de Jolani ont pris le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les types se sont barrés, ils se sont enfuis.
Au
vous avez des terroristes
parle,
dans la nature.
Il y a des djihadistes, y compris de nationalité française, qui ont été libérés. Est-ce que vous avez ces informations-là de ces prisons ?
Oui, moi j'ai filmé des djihadistes français dans les prisons gardées par les Kurdes. C'est dans un de mes films qui est sur les plateformes qui s'appelle Une autre idée du monde. On les voit, les prisons. Les prisonniers français de Daesh. Ceux-là, dans la prison de Al-Hol, ceux-là, il est possible qu'ils soient aujourd'hui dans la nature. En train de chercher quoi ? Peut-être une manière de refaire leur vie en Syrie, mais peut-être une manière de venir faire des Bataclans à Paris, je ne sais pas, ce qu'à Dieu ne plaise.
Et effectivement, la situation est extrêmement chaotique, en tout cas au moment où l'on se parle là-bas. La France qui est intervenue d'ailleurs en Syrie récemment, qui malgré tout continue de temps en temps à intervenir ponctuellement, faut-il qu'elle continue à le faire ?
Mais bien sûr, on est dans une guerre mondiale aujourd'hui.
Ça y est, dans une guerre mondiale.
Oui, une guerre mondiale, enfin... une nouvelle sorte de guerre, avec d'un côté les démocraties, de l'autre des régimes autoritaires, des régimes impérialistes, des islamistes radicaux, des Russes, des gens de ce genre. Ben, il faut de toutes les manières qu'on peut s'opposer à ces gens-là. Il faut pas laisser Poutine, il faut pas laisser les islamistes radicaux, il faut pas laisser le Jolani envoyer les gens de Daesh ou d'Al-Qaïda dont ils voudraient plus nous les envoyer à Paris. Il faut tout faire pour empêcher ça. Empêcher ça, ça veut dire en effet avoir une diplomatie, pas une diplomatie comme on disait pliant en deux, mais une diplomatie active, fière, française, en Syrie.
Pendant ce temps-là, Bernard-Henri Lévy, on ne parle plus de l'Ukraine.
Ben oui, c'est terrible. Et vous savez, ça s'appelle soit la complexité de l'histoire, soit la diversion. Hein, ça peut être une diversion aussi. Le fait de multiplier
le Groenland, par exemple.
Groenland, stratégie de l'essuie-glace, une nouvelle chasse l'autre. Ben le Groenland, tout le monde sait. C'est focal. Nous sommes tous comme des essaims d'abeilles. On va vers la lumière du Groenland, et puis on parle plus de l'Ukraine. Aujourd'hui, il fait moins 25 à Kiev, des missiles sont tombés toute la nuit, un train de voyageurs, pour la première fois, a été frappé à Kharkiv ou sur la route de Kharkiv, et les Ukrainiens sont dans une situation de plus en plus, j'allais dire désespérée. Je crois qu'ils sont moins désespérés que les gars d'en face qui, eux, ont vraiment froid. Mais ils sont dans une situation de plus en plus terrifiante. Mener une guerre de résistance depuis 4 ans, avec pas assez d'armes, dans un état d'épuisement complet, contre une des plus grandes armées du monde, dans ces conditions-là, honnêtement, j'aimerais pas être à leur place.
Bernard-Henri Lévy, vous aviez écrit sur la démocratie américaine. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui lorsque vous voyez notamment la police aux frontières ou ICE et la manière dont elle s'en prend aux étrangers sur les territoires américains?
Bien sûr. ICE, c'est une ignominie. Ce qui s'est passé, les deux meurtres de sang-froid sont une ignominie. Indigne de l'Amérique. Indigne, en effet, de cette démocratie américaine dont j'ai fait, moi, vous savez, dans mes marottes, il y a une chose que je déteste, c'est l'anti-américanisme. Je pense que ça fait la haine de l'Amérique en soi. Hein, l'Amérique, des gens qui mangent trop, des obèses, des gens qui savent pas ce que c'est, comme tout ça, pour moi, ça fait partie du pire du marais idéologique français. Mais je dois dire que ce qui se passe aujourd'hui sous cette administration, cette espèce de violence, de manière de s'en remettre à la force, à quelque chose qui me dégoûte, quoi, voilà.
Qui vous dégoûte, vous dites d'ailleurs, vous dites le mot meurtre. Un mot parce qu'il y a une polémique aujourd'hui. Le Conseil d'État a engagé une procédure disciplinaire contre Arnaud Klarsfeld, qui, à propos interrogé sur les questions de Trump et de ICE, a dit il faut organiser, comme le fait Trump, des sortes de grandes rafles un peu partout. Comment vous avez réagi à ce mot de rafle?
J'ai pas entendu ce mot-là, mais il est horrible. J'espère bien que cette France-là, la France de Voltaire, des droits de l'homme, la France qui a livré les Juifs en 42 et la France qui en a sauvé aussi quelques-uns, ne se laissera jamais aller à ce genre de tentation.
Un mot aussi sur des appels au boycott. LFI qui appelle au boycott, par exemple, du concert d'Enrico Macias à Romorantin. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que les choses s'apaisent, ou quand vous voyez ça, vous dites c'est un épiphénomène, ou est-ce que c'est désormais monnaie courante?
Ça non plus, je ne savais pas, mais c'est énorme. Et c'est pas un épiphénomène. Boycotter Enrico Macias, franchement, il fait partie du patrimoine de la chanson française, c'est inqualifiable. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on... Quelle est la raison? Il est chef d'État, il était soldat dans un théâtre de guerre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur qui on fait pression quand on boycotte Enrico Macias? C'est juste ignoble, c'est juste une provocation antisémite. Je sais pas qui. Je vous dis, c'est LFI proprement dit.
Oui. Ah
ben, c'est une provocation antisémite.
C'est une association appel lancé par LFI.
Provocation
le maire de Romorantin Enrico Macias. Il dit, dois-je rappeler qu'Enrico Macias est un instituteur français d'origine juive, né à Constantine en Algérie, dont le beau-père Raymond Léris, assassiné le 22 juin 61, était le créateur de la musique arabo-andalouse.
Ben, il a rappelé que c'était le fils d'un père d'un histoire d'origine juive. Les mots sont là. Ça s'appelle l'antisémitisme. C'est abject.
Merci Bernard-Henri Lévy.
Solidarité totale avec Enrico Macias, que je connais pas, mais que je trouve bien, bien sympathique.
Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, réalisateur. Votre dernier film, Ukraine, notre guerre. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Bernard-Henri Lévy était mon invité ce matin et Dominique de Villepin tenait à réagir à cette interview.
Oui, bonjour Apolline de Malherbe. Quel bonheur d'entendre les chansons et l'œuvre d'Enrico Macias. Oui. Mais également d'entendre cet homme pleinement engagé, on l'a entendu dans cette interview, avec ce souffle, cette énergie, cette vision, cette sensibilité, cette envergure, ce panache. On dirait moi. Mais en moins bien. Bien sûr, Bernard Olivier a des circonstances atténuantes. Il n'a pas, comme j'ai pu le faire, occupé les plus hautes fonctions de l'État.
Oui, enfin, la grande qualité de Bernard Olivier, c'est aussi qu'il va sur le terrain.
Et de fait, c'est vrai qu'on sent. On sent très bien qu'on voit, qu'on sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, pardonnez-moi. Il a été en Ukraine, sur tous les terrains de guerre, au Kosovo, en Libye. Et c'est vrai que rien ne vaut d'aller sur place pour se rendre compte des choses par soi-même. Je le vis moi-même. Lorsque je vais sur le terrain au Café de Flore, chez Coste, oui. Parfois même dans des zones à risque, où vous sentez, regardez, pieds menacés, comme lorsque j'ai franchi la porte de cet endroit, la taverne de Maître Cantet. Mais Bernard-Henri Lévy et moi, moi et Bernard-Henri Lévy, nous sommes témoins de ce monde, des grands témoins de ce monde. Il est cinéaste, il fait des films, et moi aussi quelque part pour 2027. Je me fais des films.
Merci Dominique de Villepin. Avec Bernard-Henri Lévy, nous avons parlé des Iraniens qui ont le soutien de nombreux politiques français. Laurent Wauquiez, vous souhaitiez réagir?
Qui, madame de Malherbe?
J'adore quand vous faites Laurent Wauquiez.
Pourquoi vous faites une bouche de Donald quand vous m'imitez? Je vous ai vu. Qui ne serait pas touché, revenons sérieux, par les propos que nous venons d'entendre sur l'Iran? Mais pardon, avant toute chose, je voudrais dire bonjour, ou plus exactement, Salam alaikum les Roya. Car vous le savez, je parle arabe. Oui, dès que je vais sur un plateau, je le dis à tout le monde, parce que j'ai cette qualité, je parle arabe. Oui, Salam alaikum à tous nos amis du peuple iranien, glorieux combattants de l'islam. Mais je le précise, de l'islam gentil.
L'islam gentil.
Oui, l'islam gentil. C'est les musulmans qui manifestent contre les mollahs de l'islam qui eux sont des musulmans méchants.
Ah oui.
Vous voyez, c'est pas compliqué la géopolitique. C'est comme dans la vraie vie, vous savez, madame de Malherbe. Il y a les gentils et méchants. Voilà. Et nous devons soutenir les musulmans gentils, ceux qui n'aiment pas le voile, ceux qui ne sont pas terroristes. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des musulmans comme ça, des gentils. Ça change un peu d'habitude. Voilà la radine.
La radine, vous êtes un peu caricaturale quand même.
Non mais attendez. La nature mécontente. Quand je dis du mal des musulmans, alors vous trouvez ça caricatural. Et quand j'en dis du bien, vous trouvez ça aussi caricatural. Faudrait savoir, madame de Malherbe.
Oui, c'est vrai. Merci, Laurent Wauquiez.
La lance avant était un peu pourrie.
Je vous dis, j'adore quand vous faites Laurent Wauquiez. Ce matin, Stéphane Bern est avec nous pour les titres.
Non, je peux revenir, si vous voulez.
Ah oui, avec plaisir.
Oh non, laissez-moi la place. Poussez-vous chez moi. Oui, bonjour Apolline. Et bonjour à tous les nobles courtisans assis autour de la table. Oui, ils sont là. Et ainsi qu'aux gueux et aux roturiers qui sont debout sont là-bas. Allez, c'est parti pour les titres. Crise à CNews. On se régale. Après que Sonia Mabrouk, Pascal Praud et Laurent Ferrari ont pris leur distance avec Jean-Marc Morandini, ce dernier aurait déclaré que si tous les adultes continuent comme ça à s'éloigner de lui, mais il ne faudra pas s'étonner qu'ils soient obligés de se rapprocher à nouveau des enfants. Et puis Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée les premiers ministres danois et groenlandais. Et le président tenait à nous apporter quelques précisions sur cette rencontre. Yeah. Yeah. Oui.
C'est bon la musique. Oui, non, je me régale. Oui, mais écoutez, ça c'est, puisque vous ne posez pas la question, je vais vous répondre. Ça s'est bien passé. J'ai rencontré donc la première ministre danoise, madame Chris Prols, également le premier ministre groenlandais, monsieur Stimorol, qui sont venus bien sûr avec leurs ministres respectifs, Carlsberg, Bang et Olufsen. Oui. Alors, j'aurais réaffirmé tout mon soutien. Enfin, c'est plutôt Brigitte qui l'a fait. Elle leur a dit, si Trump essaye encore d'annexer le Groenland, on va le foutre dehors, ce sale con. Bon, ok, c'est un peu direct, mais il faut avouer que ça a eu beaucoup plus d'impact que quand c'est mon ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui intervient.
Merci, monsieur le Président. Reprenez Stéphane Bern.
Oui, tout ça pour ça. Alors, allez, on reste au Quai d'Orsay, où justement, le ministre des Affaires étrangères cherche son futur consul au Groenland. Alors, je vous le dis tout de suite. Non, ce ne sera... Non, n'insistez pas, ce ne sera pas moi. Non, les endroits paumés avec 3 habitants dont on ne comprend rien ce qu'ils disent. Pardon, mais j'ai déjà donné avec mon émission le village préféré des Français. Par contre, notre ami Nelson Montfort souhaite postuler, je crois.
Non, écoutez, mon cher Stéphane, merci de soupçonner que j'aurais toutes les compétences pour être consul au Groenland. C'est vrai que j'ai passé près de 30 ans à commenter des gens qui chutent sur la glace, et s'ils prenaient l'envie de Donald Trump de mal se comporter avec le Groenland, pareil, après 30 ans à côtoyer Philippe Candeloro, j'ai une solide expérience avec les personnes au vocabulaire limité qui tiennent des propos déplacés.
Merci à tous. Et puis dans l'affaire Morandini, c'est au tour de Philippe de Villiers de prendre ses distances avec Jean-Marc Morandini.
Vous vous rendez compte, ma merde, monsieur Marshall, demandez, monsieur de Manchel, oui, d'Orangean, ouais, tout le bordel, vous rendez compte, ma merde, demandez des photos dénudées à des adolescents imberbes, c'est totalement déplacé. Ne doit pas faire ça, tout le monde le sait, c'est le rôle du curé de la paroisse. Il faut respecter le sacré.
Bien sûr, Jordan Bardella a interdit aux membres du Rassemblement National de se rendre dans les émissions de Jean-Marc Morandini.
Évidemment, du coup, ça a changé un peu la ligne éditoriale de l'émission. Comme invité, il va falloir qu'ils se rabattent sur des gauchistes comme Bruno Retailleau ou David Lisnard. Notez que si Sonia Mabrouk nous quitte, si les élus RN nous quittent sur CNews, si peut-être aussi Jean-Marc Morandini nous quitte, il y aura toujours une solution pour l'antenne de CNews. Au lieu de Morandini Live, ben évidemment, ce sera De Villiers Live.
Oui. Hein.
Puis après, ensuite, l'heure des pros De Villiers.
Ah oui.
Le face-à-face De Villiers, ouais. 100% De Villiers. Ouais. Bon, ça, c'est juste le matin.
D'accord.
Et puis après, l'après-midi, je repartirai au Mastic avec... Le super De Villiers Show. Ça, c'est un grand remplacement cas de la gueule, non?
Merci Nicolas, passe à Cantlou, que l'on retrouve donc tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast dans un instant. Les GG, quel est le programme, Alain?
Eh bien, dans les grandes gueules, puisque nous avons une enseignante, de quoi parlerons-nous? De la suppression des postes d'enseignants dans les GG. Dans les grandes gueules, est-ce que c'est justifié par la baisse du nombre d'élèves dans les classes? Vous viendra en parler avec nous au 32-16. On évoquera la colère des policiers aussi qui appellent à manifester samedi. Ils appellent les Français prêts à descendre la rue pour soutenir les policiers et leurs conditions de travail. Et puis nous recevrons Marion Maréchal. À tout de suite avec les GG en direct jusqu'à midi.